Comment le message voulait. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une vertu puissante mais négligée. Comment appelle-t-on les croyants en Dieu qui participent au culte? Il y a une expression, ce sont des fidèles. Des fidèles. Ça vient du mot foi en fait. Ce sont des gens qui ont la foi. Mais fidèle hein, a deux sens, avoir la foi et garder la foi. La question c'est, est-ce que nous sommes vraiment des fidèles? Est-ce que nous savons ce que c'est la fidélité? Est-ce que nous pratiquons la fidélité? Est-ce que nous nous rendons compte de l'importance de la fidélité? C'est une vertu puissante, mais négligée. Un psaume de David, le psaume 12, verset 2, fait cette annonce qui résonne encore aujourd'hui de la même façon. Psaume 12, verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. À son époque, David trouvait que déjà les fidèles disparaissaient. Ceux qui avaient la foi, ceux qui étaient fidèles à Dieu, ceux qui étaient fidèles dans leur vie, tout court. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et on peut faire le même constat. Notre époque ne met pas en valeur la fidélité. Ce qu'on met en valeur, c'est l'exploit. Ce qui est impressionnant, ce qui est visible, tu as un million de vues sur YouTube. Waouh, ça c'est génial. Là, tu as réussi ta vie. Mais la fidélité, ça n'est pas mis en valeur. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'église, les fidèles s'en vont. Il y en a de moins en moins. Chacun fait un peu comme ça l'arrange. L'infidélité, c'est « je fais ce qui me plaît ». C'est l'individualisme. Donc, si ça m'arrange, je le fais. Si ça ne m'arrange pas, je ne le fais pas. Mais quelqu'un qui est fidèle, ce n'est pas quelqu'un comme ça. Il ne raisonne pas comme ça. Il dit « je le fais parce que Dieu le veut, parce que je me suis engagé, j'ai donné ma parole ». Ça aussi, la parole. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des contrats avec toutes sortes de petites lignes, des signatures dans tous les sens? Parce qu'il n'y a plus de parole. Il y avait une époque où l'on donnait sa parole, il n'y avait même pas de papier. Dans mon village en Corse, on pouvait vendre son terrain ou quoi que ce soit sur parole. On disait, je te promets, tu auras mon terrain pour telle somme. Hop, ils arrivaient, ils donnaient l'argent, voilà, c'est à toi. Il n'y avait ni contrat, ni notaire, il n'y avait rien. Mais il y avait une parole. Et c'est quelque chose qui disparaît. Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, ou non, non, mais pas quelque chose qui ne tient pas. Salomon aussi a dit quelque chose sur la fidélité que j'aimerais que nous regardions. Proverbe 20, donc c'est le fils de David. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qu'est-ce que c'est cette phrase? Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je suis quelqu'un de formidable, je suis généreux, je suis bon, je suis connu, j'ai écrit des livres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on se vante, c'est quelqu'un qui se vante, qui proclame sa bonté. Mais un homme fidèle, là on voit le contraste. L'homme fidèle en général, ou la femme fidèle, il est discret. Il fait son travail, il fait ce qu'il s'est engagé à faire, il avance, il suit, il persévère. Celui qui proclame sa bonté, c'est celui qui se vante, qui se met en avant, mais qui n'est pas forcément fidèle. Et il pense que ses œuvres de bonté, de générosité, ses œuvres spectaculaires, peuvent combler son manque de fidélité parfois. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est d'être fidèle, ce n'est pas d'être spectaculaire. Et nous sommes dans un monde de médias, et c'est très dur à comprendre aujourd'hui. Il faut passer à la télé, il faut être dans le dernier télécrochet, il faut être sur YouTube, il faut être partout, il faut être super visible, super impressionnant, il faut être bodybuildé, il faut tout, être refait dans tous les sens. L'apparence, le spectaculaire, il faut impressionner. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est la fidélité. Et ce que Dieu récompensera, ce sera la fidélité. Il y a des chrétiens parfois qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas un grand missionnaire. Je regarde, j'ai lu la vie d'Hudson Taylor, de William Carey, de tous ces grands missionnaires du temps passé. Et moi, qui suis-je? Je suis un petit chrétien. » Mais ne vous comparez pas à ces missionnaires. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont grands, ces missionnaires, d'une certaine façon? Ils sont connus ou peut-être ils ont marqué leur époque. C'est qu'ils ont été fidèles. Et ce que Dieu retiendra de notre vie chrétienne, c'est si nous avons été fidèles, oui ou non. Pas si nous avons voyagé dans le monde entier, si nous avons fait toutes sortes d'exploits au nom du Seigneur. Non, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé? Et parfois, Dieu ne me demande pas des exploits. Il y a certaines personnes choisies pour faire ça, et il y en a d'autres qui ne sont pas choisies pour ça. David a été choisi pour être le roi d'Israël, pour être un prophète, pour être l'auteur des psaumes. Salomon aussi était le roi d'Israël. Mais vous et moi, nous ne sommes pas rois, nous ne sommes pas forcément des prophètes, mais nous avons un rôle à jouer sur cette terre. Des œuvres que Dieu a préparées, il faut être fidèle. Qu'est-ce que la fidélité, si on s'en tient au dictionnaire? C'est le dévouement, la loyauté. Oh là, c'est des mots qui disparaissent du vocabulaire. La constance, ne pas manquer à sa parole, ne pas manquer à une promesse, faire son devoir. Aïe, pardon, excusez-moi, ça fait mal aux oreilles. Je dis des gros mots ce matin. Ne pas trahir. Être fidèle, c'est ne pas trahir les autres. C'est être conforme à la vérité. C'est restituer la vérité, ce qui nous a été transmis, et le transmettre fidèlement. Être fiable. Aujourd'hui, c'est dur de trouver des choses fiables, des personnes fiables. Déjà, les machines ne sont pas fiables. Elles tombent en panne, elles vous lâchent. Mais alors les êtres humains, c'est pareil. Il y a un manque de fidélité. Et Dieu attend de ses enfants qu'ils soient des fidèles. Et si on vient au culte, on est des fidèles. Une personne qui est fidèle tient ses promesses. C'est un homme ou une femme de parole. Il est digne de confiance. C'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la foi et la fidélité. Même dans les racines du mot. La foi, c'est le fait de compter sur Dieu, de s'appuyer, se reposer sur Dieu. Et la fidélité, c'est d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Dieu est absolument fidèle, et j'en parlerai un petit peu après. Mais nous, nous devons aussi être des gens sur qui on peut compter, si nous avons Dieu pour Père. Est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que nous sommes intègres? Ce sont des vertus divines. Des vertus de fidélité. Aujourd'hui, un petit mensonge par ici, une petite tricherie par là, c'est encouragé même. Oh là là, il ne faut pas être trop strict. Hein. Les protestants sont connus, ont une réputation d'être très super honnêtes, qu'ils ont gardé de Genève et de toute cette éducation biblique. Et il faut qu'ils continuent, et il faut que nous soyons aussi dans cet esprit-là, d'être des personnes honnêtes et droites, sur qui on peut toujours compter. La Bible parle d'un roseau qui transperce la main, sur lequel on ne peut pas s'appuyer, en parlant de l'Égypte, dans un des prophètes. Eh bien, il ne faut pas qu'on soit comme ça, il faut qu'on puisse s'appuyer sur nous, qu'on soit comme des cannes, des béquilles pour les autres, qu'on puisse être un soutien. C'est ça, quelqu'un de fidèle. Et quelle est la fidélité que Dieu attend de nous, chrétiens? Il attend que nous soyons fidèles d'abord à notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Lui, il a été fidèle à sa parole. Il a dit qu'il viendrait nous sauver et il est venu, il est devenu un homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour payer nos péchés. Jusqu'au dernier moment, il a été tenté par le diable de ne pas le faire, mais il a dit « non pas ma volonté mais la tienne » en parlant à son Père. Et le Seigneur est allé jusqu'au bout pour nous. Imaginez que Jésus-Christ ne soit pas fidèle. Que le Seigneur Jésus, peu avant, devant Pilate, hein, lors de son procès, Pilate voulait le relâcher. Il n'attendait qu'une parole de Jésus pour le relâcher. Et que Jésus se dise dans sa tête, « Oh, franchement, est-ce qu'ils valent la peine, tous ces humains-là ? Regarde, ils crient, crucifie-le, ils ne m'aiment pas. Je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer dans le futur, je les vois déjà tous. Ils vont blasphémer mon nom, ils vont se moquer de moi. Ils vont faire des films qui se moquent de moi. Oh, non, puis j'ai pas envie. Non, aujourd'hui, je suis pas... La croix, ça fait mal, quand même. C'est horrible. Non, je vais dire à Pilate que je suis innocent. Pilate, oui, je suis innocent. Tout ce qu'on dit sur moi est faux. Je n'ai rien fait de mal. Demande, il y a des témoins partout qui pourront dire « Je ne fais que guérir les gens, je ne fais que du bien. Je n'ai jamais dit, appelé à la révolte contre César, ni rien. » Et là, Pilate l'aurait peut-être relâché et il n'y aurait pas de salut. Mais Christ a été jusqu'au bout pour nous. Et il veut que nous, on aille jusqu'au bout avec lui. Seigneur, je veux être fidèle. Être fidèle, c'est un peu comme une idée de mariage aussi. C'est de ne pas avoir des idoles vaines dans sa vie. Des choses qui prennent la première place à la place du Seigneur. Parce que Dieu est Dieu, il a droit et il devrait avoir la première place dans nos affections. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est parfait. Parce qu'il est notre Créateur et notre Sauveur. Mais si je mets plein de choses devant lui, je suis infidèle à Dieu. Et être infidèle à Dieu, c'est le commencement de la chute. Nous devons être aussi fidèles à la foi transmise une fois pour toutes. Nous avons des frères et sœurs qui ont transmis la parole de Dieu. Un certain nombre en France sont morts pour traduire la Bible, pour la colporter. Ils ont été mis à mort, condamnés à mort, exécutés, parce qu'il détenait une Bible en français ou parce qu'il a colporté. Grâce à eux, nous avons une certaine liberté. Aux États-Unis, la liberté de conscience est venue par des chrétiens, des baptistes justement, en l'occurrence. En France, c'était la Révolution française qui a amené la liberté de conscience et qui a permis aux chrétiens de vivre leur foi sans être inquiétés, plus ou moins. Nous devons être fidèles à cette foi, à cette doctrine, cet enseignement. Il faut que le chrétien soit fidèle à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les églises évangéliques du monde ? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Il y a une ignorance, c'est terrifiant. Il y a des personnes, ils ne savent pas où sont certains livres de la Bible. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans une église. On leur dit, tu peux me trouver le livre de Josué ? C'est l'ancien, le nouveau ? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais lu Josué depuis 10 ans qu'ils vont dans une église. Un chrétien doit lire sa Bible régulièrement. Il doit la connaître, il doit la prier, il doit la vivre. Et on peut dire, oui, mais moi j'ai le message le dimanche. Vous pensez qu'un message du dimanche, ça suffit ? Oui, mais j'ai l'étude biblique. Ça ne suffit pas, non. Il faut avoir sa propre lecture personnelle, parce que Dieu nous parle quand on lit la Bible. Et il faut être fidèle soi-même. C'est pas l'Église qui doit être fidèle, c'est pas le pasteur qui doit être fidèle. C'est chacun d'entre nous doit être fidèle à la parole. Et puis, on doit être fidèle dans notre témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins. C'est pas trop compliqué d'être un témoin. Un témoin, c'est il raconte ce qui lui est arrivé. Dieu nous appelle à raconter ce qui nous est arrivé. J'aime bien les nouveaux croyants, ceux qui sont venus au Seigneur récemment, chaque fois qu'on leur parle du Seigneur, ils disent « Oh, le Seigneur, si tu savais ce qu'il a fait pour moi, il m'a délivré, il m'a sauvé, j'étais dans le mal, j'étais dans l'addiction, dans ceci, dans cela, et le Seigneur m'a arraché. » C'est merveilleux de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais il faut être fidèle dans le témoignage. Si vous ne parlez pas, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? On dit, oh les gens aujourd'hui ne veulent pas croire, mais c'est faux, c'est qu'ils n'ont pas entendu. Qui va leur parler ? Mais il y a des missionnaires pour ça, c'est-à-dire vous pensez à des professionnels spécialistes de l'évangélisation. Mais dans la Bible, moi je ne vois pas ça, je vois des missionnaires appelés, des apôtres qui étaient appelés par le Seigneur, mais il y avait tous les chrétiens derrière. Qui devait témoigner aussi. Et puis, nous devons être fidèles à nos frères et sœurs. en nous rassemblant régulièrement pour nous exhorter les uns les autres. Mes frères et sœurs ont besoin de moi, j'ai besoin de vous, et on doit être fidèles dans les réunions, afin que justement nos frères et sœurs n'aient pas de manque, que tous les dons spirituels soient pratiqués et mis en commun. L'infidélité a des conséquences graves, et on ne réalise pas à quel point on se dit « Oh, si je ne suis pas fidèle au Seigneur, oh, c'est pas trop grave, personne ne le verra, il n'y a que Dieu qui le sait, mais bon, il est gentil, il est miséricordieux. Si je ne suis pas fidèle à la Bible, ben, c'est pas grave, je la connais quand même, en gros, je sais ce qu'il y a dedans. Si je ne suis pas fidèle à mon témoignage, ben, il y aura quelqu'un d'autre qui va témoigner à ma place. Si je ne suis pas fidèle à l'Église, mais il y aura toujours des gens qui vont à l'Église, même si moi je ne suis pas là, c'est pas grave. » Si, c'est grave. Toutes les infidélités ont des conséquences. Celui qui se relâche dans son travail, dit la Bible, est frère de celui qui détruit. Se relâcher, c'est comme détruire, commencer à détruire. C'est vrai dans certains métiers, hein, je pense à un pilote d'avion par exemple. Pilote d'avion qui se relâche, il met en danger tout l'équipage et tous les passagers. Hein. Il ne peut pas se permettre de se relâcher. Et on ne doit pas se relâcher, particulièrement dans le domaine spirituel. Car il y a un ennemi qui est prêt à nous faire chuter à tout moment. Et il y a des âmes perdues pour l'éternité. Un témoin fidèle ne ment pas, dit la Bible. Mais un faux témoin dit des mensonges. Quelqu'un qui est infidèle, il dit des mensonges. Il ne dit plus la vérité. Il y a des pasteurs, des prédicateurs, des chrétiens qui racontent n'importe quoi, qui prennent la Bible et qui la tordent et qui en font des messages totalement à l'envers de ce que Dieu voulait dire. Souvent, c'est pour gagner de l'argent, pour gagner de la notoriété. Il faut être fidèle à la parole de Dieu. Sinon, on peut tomber vite dans les fausses doctrines. Comment les sectes sont apparues? Elles sont toujours parties des vrais chrétiens. Mais parmi les vrais chrétiens, il y avait des faux chrétiens qui n'étaient pas fidèles à la parole de Dieu. Et ils sont partis sur un verset et ils ont commencé une secte. Les témoins de Jéhovah, par exemple, sont venus des chrétiens évangéliques. Les mormons sont venus des chrétiens évangéliques. Les adventistes sont venus des chrétiens évangéliques. Il y a beaucoup de sectes, pas toutes, mais beaucoup, qui sont sortis de vrais chrétiens parce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a commencé à dire n'importe quoi, à n'être pas fidèle. Un autre verset de la Bible, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste ou infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si je ne suis pas capable d'être fidèle dans les petites choses que Dieu me demande, je ne serai pas fidèle dans les grandes choses. Et là, c'est grave. Ça a des conséquences. Par exemple, des parents, c'est la fête des pères, des parents qui ne suivent pas le Seigneur ou qui vont à l'église le dimanche, mais à la maison, c'est n'importe quoi. Les enfants, ils vont voir ça. Ils vont dire, bon, on peut aller à l'église le dimanche, avoir l'air très pieux, et à la maison, on peut faire ce qu'on veut. On peut s'enivrer, on peut crier, on peut mentir, on peut jurer, on peut y aller. Et les enfants, ils intègrent très vite les choses comme ça. Et après, les parents disent, oh, je ne comprends pas, mes enfants, ils ne suivent pas le Seigneur, ils ne vont plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as peut-être pas été tout à fait fidèle, là. Et tes enfants, ils moissonnent ce que tu as semé. À nous d'être fidèles, parce que ça a des conséquences sur toute notre famille, toute notre société. La Bible nous donne des exemples de croyants qui ont été fidèles. Joseph dans la Genèse, fidèle à son Dieu et intègre jusqu'au bout. Pourtant, il en a bavé, Joseph. Vendu par ses frères, il se retrouve esclave auprès d'un chef d'armée égyptienne. Et puis ensuite, il va en prison injustement. Et des années comme ça, c'est pas nous, quand on le lit dans la Bible, c'est quelques versets. Hein, bon, voilà. Mais lui, c'est des années d'esclavage, des années de prison. Même en prison, il est totalement oublié. Personne ne s'inquiète de savoir ce qu'il fait dans sa prison. Mais Dieu, lui, le sait. Et Joseph reste intègre tout le temps. C'est une image, un exemple, un modèle de fidélité. Un autre modèle, c'est Ruth. Vous me dites, c'est où, Ruth? C'est dans l'Ancien Testament. Je vous encourage à le lire. Ruth, c'était une femme qui n'était pas israélite. mais elle a épousé un Israélite dans son pays qui était venu fuir une famine dans son pays. Et Ruth, elle a adopté le Dieu de son mari, elle a cru en Yahvé. Et lorsque son mari est mort, sa belle-mère, et vous connaissez la réputation des belles-mères, les belles-mères et les belles-filles, en général, ça ne se passe pas très bien. Ça dépend. Heureusement, ça existe. Dans ma famille, ça se passe bien. La belle-mère décide de rentrer en Israël. Et elle dit à Ruth et à l'autre belle-fille, « Restez, vous êtes veuve, de toute façon, vous n'avez pas à me suivre. » Et Ruth dit, « Moi, je veux te suivre. Je veux t'aider, je veux être avec toi. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. » Ruth avait une fidélité absolue pour sa belle-mère et pour son Dieu, Yahvé. Et Dieu l'a bénie, hein, Ruth. Elle a ensuite rencontré Boaz, qui l'a épousé, un homme riche, qui a pourvu à tous ses besoins, et elle est devenue l'ancêtre du roi David, l'ancêtre du Messie. Elle est dans la lignée messianique, Ruth, parce qu'elle a été fidèle en peu de choses. Des fois, les mamans et les épouses souffrent. Elles ont l'impression de faire toujours la même chose. Elle dit, à un moment, j'en ai marre, je vais tout laisser tomber. Je pars, je prends l'avion, je quitte tout. Non. Mais peut-être qu'elles y pensent, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais il y a un moment, on en a assez de faire la vaisselle, la cuisine, le linge, la vaisselle, la cuisine, le linge, le ménage, la vaisselle, la cuisine, le linge. Et le mari qui se plaint, et les enfants qui se plaignent. « Maman, pourquoi ? Il n'y a pas ça ?» Bon. Mais mesdames, la fidélité est récompensée. Vos enfants voient cette fidélité. Votre mari voit cette fidélité. Et les hommes aussi doivent être fidèles à leur épouse pour les soutenir, les encourager, les aider à la maison. Pas laisser la femme tout faire et en se plaignant. Il faut être fidèle. Paul était un homme fidèle à Dieu. Daniel a été fidèle, même en captivité. Il a dit, je ne mangerai pas de vos viandes sacrifiées aux idoles. Il a été fidèle jusqu'à la mort, puisqu'il a été condamné à mort, jeté dans la fosse aux lions. On a retrouvé, les archéologues ont retrouvé les fosses aux lions en Irak, à Babylone. C'était en fait un grand fossé qu'on creusait, hein, de plusieurs mètres de profondeur. On mettait un lion dedans et on jetait l'homme dedans. C'était tout simple, hein. Et au bout de quelques minutes, il n'y avait plus grand-chose qui restait. Daniel a été jeté dans une fosse avec plusieurs lions et il est sorti vivant. Daniel a été fidèle à son Dieu. Il priait son Dieu et il refusait de prier les idoles. Pierre, l'apôtre Pierre, on peut dire, oui, mais alors lui, voilà. Ah, Pierre, parlons-en. Il a renié Jésus. Lorsque Jésus a été arrêté, il a dit, non, je ne connais pas cet homme. Alors, mais ce qui est frappant avec Pierre, c'est qu'il était près de Jésus quand il a fait ça. Pourquoi il a renié ? C'est qu'il a eu peur. Il a eu peur, mais en attendant, c'était le seul qui avait eu le courage de suivre Jésus et de regarder son procès de loin dans le Sanhédrin. Tous les autres, ils avaient fui. Lui, il était resté parce qu'il aimait son Seigneur. Et quand il a renié, Jésus l'a regardé, parce que Jésus l'avait prévenu qu'il allait le renier, et il a pleuré. Et il est allé plus tard, hein, auprès du Seigneur, ressuscité pour demander pardon, être restauré. On peut avoir des moments d'infidélité, bien sûr. Mais ce qui caractérise Pierre, c'est son amour pour le Seigneur. Il était attaché au Seigneur et dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Qui est-ce que je vais suivre ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » C'est ça aussi, cette fidélité d'amour au Seigneur. Nous avons un Dieu fidèle. J'ai plein de versets là, je ne vais pas vous donner les références, mais sachez qu'elles sont là sur ma feuille. Dieu est fidèle à toutes ses promesses, la Bible le dit. Dieu est fidèle dans ses alliances, il a fait alliance avec David, alliance avec Israël. Il a toujours été fidèle même si Israël n'a pas été fidèle. Dieu est fidèle dans son salut. Lorsqu'il promet de pardonner nos péchés, il le fait. Lorsqu'il promet la vie éternelle, il la donne. Dieu est fidèle dans sa droiture, il est droit. Il ne triche pas, il ne trafique pas, il ne ment pas. Dieu est fidèle aussi même pour notre sanctification. Dieu nous sanctifie quand on est chrétien. Dieu agit, il est là tous les jours pour nous faire progresser dans la foi. Dieu est fidèle dans les épreuves que nous traversons. Lorsque nous sommes éprouvés, Dieu est là. même si on ne le sent pas physiquement, il est là parce qu'il est fidèle. Il a dit qu'il nous accompagnerait tous les jours dans les épreuves aussi. Il est fidèle quand nous sommes infidèles, dit la Bible, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle dans son pardon. Il est fidèle lorsqu'il nous corrige en tant que père. Il est fidèle lorsqu'il exauce nos prières. Par sa grâce, Dieu est tellement fidèle. C'est merveilleux d'avoir un Dieu fidèle. C'est ce qui fait que la foi peut se reposer sur Dieu. L'homme est infidèle par nature, on pourrait dire. Il est instable, mais Dieu est fidèle. Et on peut mettre toute sa foi en Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, qui est le Dieu sauveur, qui est venu. Mais c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui sont instables, infidèles, qui ne persévèrent pas, qui papillonnent toujours. Et si on est comme ça, il faut savoir se remettre en question. Il y a des hommes qui vont de femme en femme, des femmes qui vont d'homme en homme. Il y a des gens qui vont de ville en ville, de boulot en boulot. Ils n'arrivent pas à être fidèles quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un signe de bonne santé morale ou spirituelle. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. On fuit, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas et on passe d'un truc à l'autre, mais on n'est pas satisfait, on n'est pas content. Est-ce qu'on peut guérir de cela? Bien sûr qu'on peut guérir. Auprès du Dieu de fidélité. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui sont particulièrement infidèles. C'est-à-dire, quand on pense un peu à notre vie, on se dit, à qui est-ce que je suis fidèle dans ma vie, en fait? Est-ce que je suis fidèle à mes parents, à ce qu'ils m'ont transmis? Est-ce que je suis fidèle à mon épouse ou à ma fiancée ou à mon fiancé? Est-ce que je suis fidèle à mon patron? Et des fois, si on fait le compte, on est fidèle à personne. On ne pense qu'à soi. On est fidèle à soi. Oui, alors là, super fidèle à soi. Mais fidèle aux autres. Et cette infidélité, c'est le mal, c'est le péché. Et Christ est venu vous sauver, nous sauver de ce mal-là aussi, de l'infidélité. Par sa mort sur la croix, il a payé toutes nos fautes, toute notre dette, y compris l'infidélité. Et Christ peut nous donner un amour, une fidélité envers les autres que nous n'avons pas naturellement. La Bible dit que la fidélité est un fruit du Saint-Esprit, Galates chapitre 5. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on reçoit Christ dans sa vie, il nous donne une fidélité, une stabilité. On est content parce qu'on sait que Dieu nous aime, qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. On sait qu'on est aimé de Dieu. On n'a plus besoin de chercher à droite et à gauche à combler une soif qui n'est jamais satisfaite. On est enfin satisfait dans le Seigneur. Le contentement, voilà une autre vertu puissante et négligée. Quand on reçoit le Seigneur, il nous donne cette fidélité. Et je pense à ceux qui, parmi nous ici, sont déjà chrétiens. Mais pour qui la fidélité, pour vous, ce n'est pas la première chose. Comment devenir fidèle? Eh bien, il faut tout faire pour le Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Souvent, on est infidèle parce qu'on fait les choses pour soi, pour sa gloire, pour son intérêt personnel. Mais quand on fait tout pour le Seigneur, ben on le fait pour le Seigneur. Peu importe si les gens me remercient, peu importe si les gens me reconnaissent, me voient, me congratulent, moi je le fais pour le Seigneur. Et je le fais fidèlement parce que Dieu est fidèle envers moi, moi je vais être fidèle avec lui. Et c'est comme ça qu'un chrétien peut devenir fidèle, en faisant les choses pour le Seigneur, même les moindres choses, le ménage, le linge, aller au travail, conduire sa voiture, élever ses enfants, tout cela. On doit le faire pour le Seigneur, pas seulement pour des hommes. Si vos enfants vous fatiguent, eh bien pensez à la fidélité que Dieu attend de vous envers eux. Ils me fatiguent, mais il faut que je sois fidèle avec eux. Il faut que je les aime fidèlement. Il faut que je sois toujours là pour eux le moment où ils en ont besoin. Mais surtout que je leur montre que Dieu sera toujours là pour eux. Parce que moi je suis faillible, je suis un être humain qui peut disparaître. Mais Dieu sera là pour eux. Il y a une récompense pour les fidèles. C'est lorsque le Seigneur reviendra Est-ce qu'il nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que nous entendrons cette phrase ? Le Seigneur ne va pas dire « C'est bien, tu as parcouru le monde en avion, en bateau, en voiture. Tu as été connu, tu as eu 3 millions de vues sur YouTube. » Non. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. » Et c'est ça que Dieu attend des chrétiens. Même, il y a cette phrase de Jésus en Luc 17, il dit « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc 17, 10. Cette phrase m'a toujours choqué. Quand je fais tout ce que Dieu demande, j'aimerais que Dieu puisse me dire « Emmanuel, bravo. Franchement, là, tu as été formidable. Tu as obéi à tout, tu n'as rien raté. » Excellent, je te mets au tableau d'honneur, une étoile, tout ce que tu veux. Et Dieu dit non, dites, je suis un serviteur inutile parce que je devais faire ça de toute façon, c'était mon devoir. Normalement, quand on fait son devoir, on ne devrait pas avoir de récompense, on devrait juste dire, bah, c'est bien, voilà, tu as fait ton devoir. Mais ça, c'est une attitude de quelqu'un de fidèle. Il ne le fait pas pour avoir une récompense, il ne le fait pas pour être vu, il le fait par amour pour Dieu, par amour pour les autres, par fidélité à sa parole et à son Dieu. Voilà cette vertu. Alors, il y a toujours dans la vie chrétienne la part de Dieu, la part de l'homme. Notre part, c'est d'être fidèle. Ce n'est pas une tâche impossible. Ce n'est pas impossible parce que Dieu nous le demande. Mais ce qui nous soutient, c'est notre Dieu, qui est immense, qui est tout-puissant, dont sa fidélité est infinie. Et nous avons heureusement notre Dieu dans la vie. Si ce matin vous n'avez pas Dieu dans votre vie, s'il n'est pas votre Père, s'il n'est pas votre Sauveur, ne passez pas à côté. Le seul être fidèle dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Il a été un homme parfait, absolument fidèle. Il ne vous trahira jamais, il ne vous trompera jamais. Il ne fera pas des promesses en l'air. Tout ce qu'il a promis, il le fait. Et il le donne. Alors confiez-vous en lui, remettez-lui toute votre vie, tous vos péchés, votre âme, votre éternité. Dites, Seigneur, prends tout, parce que moi je suis vraiment quelqu'un d'infidèle. Mais je te demande pardon, et je crois que tu me pardonnes, et que tu me purifies. On va s'incliner dans la prière. Juste avant de prier, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a besoin de prière ? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé, pardonné par Jésus-Christ. Vous n'avez jamais fait votre paix avec Dieu. Il n'est pas vraiment votre Père. Il est quelqu'un de lointain, à qui vous ne pensez pas souvent. Mais ce matin, le Seigneur s'est approché de vous et a touché votre âme. Et vous voulez prier et être sauvé. Si c'est le cas, voudriez-vous le manifester par un geste de la main qui dit « Priez pour moi ». Oui. J'attends quelques secondes. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Oui. Merci notre Père pour ta fidélité et pour le fait que tu es un appui pour nous, tu es un rocher. Tu ne manques jamais dans la détresse. Je prie pour ces personnes qui ont levé la main et qui lèvent la main vers toi. Je prie que tu sauves leur âme, que tu leur donnes ta fidélité. Je prie Seigneur que tu pardonnes leurs fautes entièrement comme tu l'as promis, que tu leur donnes la vie éternelle et qu'elles repartent avec la joie, le contentement, la satisfaction d'avoir Dieu dans leur vie, d'avoir un Père céleste qui est là pour l'éternité. Merci Seigneur de tes promesses et de la joie de venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.